Bienvenue à la rédaction de Challenge, Patrick Artus. Nous allons parler du budget et des déficits publics.
Oui, alors je crois qu'au-delà du budget de 2024 qui est en préparation, je crois qu'il faut regarder la trajectoire budgétaire. D'ailleurs, la France a donné déjà son plan de trajectoire budgétaire à l'Europe, hein, ce qui s'appelle le programme de stabilité, et va redonner ensuite au Parlement une trajectoire budgétaire de moyen terme. Dans cette trajectoire budgétaire, le gouvernement français pense et dit que le déficit public en 2027 sera réduit à 2,7% du PIB contre 4,5% cette année, et non, même 4,9% cette année, et peut-être 4,5% l'année prochaine. Donc on a une baisse prévue de 2,2 points de PIB du déficit public. Dans le programme de stabilité, on voit que c'est faisable à condition d'avoir 1,6% de croissance chaque année à partir de cette année et à condition de faire beaucoup d'économies sur la dépense publique, de baisser la dépense publique, de la hausse de la dépense publique par rapport au PIB de plus de 1,5 point par an. Donc déjà, les hypothèses sont assez difficiles à réaliser et je vais montrer que ces hypothèses sont extraordinairement trop optimistes. Alors, je commence par la réflexion sur quel niveau de PIB en 2027. Et donc, pour analyser le niveau de PIB en 2027, il faut se dire que 2027, c'est dans 1, 2, 3, c'est 4 ans, quoi. Et qu'on a 4 années de croissance devant nous. Si on inclut cette année, ça fait dans 5 ans. Et on doit analyser la productivité du travail, on doit analyser l'évolution de la population en âge de travailler, et on doit analyser le taux d'emploi. Hein, si vous avez plus de productivité ou plus de population en âge de travailler ou un taux d'emploi qui monte, vous accroissez le niveau de produit intérieur brut. Alors, la productivité du travail en France, c'est quand même extraordinairement violent. Elle est 6 points plus basse qu'à la fin de 2018. Elle a baissé de 6%. Et elle a pas tendance à remonter. Hein. Elle est à peu près plate maintenant depuis la fin de 2021. Il n'y a pas de signe de redressement de la productivité. Et parce que la productivité, d'abord, baisse bien avant la crise de la Covid, hein, et ensuite a baissé pour des raisons structurelles, et en particulier parce qu'il y a l'apprentissage qui s'est beaucoup développé, hein, les apprentis ont une productivité individuelle faible, et qu'il y a eu une baisse de la durée du travail, mais qui résulte d'une très forte hausse de l'absentéisme. La hausse de l'absentéisme dans les entreprises, ça explique plus de 40% de la baisse de la productivité. Ça explique 2,5 points pratiquement de baisse de la productivité sur la période 2018-2023. Il y a une hausse considérable du taux d'absentéisme, et c'est surtout un absentéisme des jeunes, hein, et sur la base d'une multiplication des arrêts de travail de courte durée. Hein. Alors, comme il y a une population vieillissante, comme on n'a pas de rupture à voir sur ce qui détermine la productivité, je pense que il est raisonnable de faire l'hypothèse d'une constance à peu près de la productivité d'ici 2027. Et ça se compare à une hypothèse qui est dans le programme de stabilité de 0, un peu plus de 6 points par an de hausse de la productivité. Donc on perd 3 points de PIB par l'insuffisance des gains de productivité par rapport à ce qui était prévu par le gouvernement. Alors, deuxième sujet, c'est la population en âge de travailler. La population en âge de travailler, elle baisse d'à peu près 0,1% par an. Et donc, ça, c'est des hypothèses démographiques. Il n'y a pas vraiment de rupture sur l'immigration. Et puis, probablement, les politiques d'immigration ne seront pas fortement rendues plus souples d'ici 2027. Et donc je garde cette hypothèse de 0,1 point par an de baisse de la population en âge de travailler. Et puis, troisièmement, le taux d'emploi. Alors, le taux d'emploi a considérablement monté. Il a monté de 2 points depuis 2019. Hein, c'est la proportion de la population en âge de travailler qui a un emploi. Mais on voit que c'était dû à une période. D'abord, c'est une compensation de la productivité faible. Et puis, on voit que l'emploi va ralentir avec la croissance faible. Et donc, probablement, on va avoir un ralentissement de la hausse du taux d'emploi. Peut-être on va tomber à 1% par an sur la hausse du taux d'emploi. Donc, faisant le bilan, 0% de gain de productivité, moins 0,1% de population en âge de travailler, et plus 1% de taux d'emploi, ça fait 0,9% de croissance chaque année, et pas 1,6% comme dans les perspectives du gouvernement. Et donc, on est 7 dixièmes de points de croissance en dessous du programme de stabilité. Sur 5 ans, ça fait 3,5 points de déficit de PIB. On aura à la fin de 2027 3,5 points de PIB, de niveau de produit intérieur brut, que ce qui est prévu par le gouvernement. Ça veut dire à peu près 1,8 point de PIB de déficit public en plus. Et donc, on avait un déficit public prévu à 2,8 et vous avez ajouté un 8, donc ça fait 4,5. Donc, ma prévision personnelle, c'est que la politique inchangée, et cette politique est assez restrictive, hein, il y avait des baisses importantes de l'ensemble des dépenses publiques, hein, on aura un déficit public de 4,5% du PIB et pas de 2,7 à la fin de 2027. Alors, que peut-on y faire ? Bah, probablement 4,5% du PIB, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable par nos confrères européens. Vous avez vu que les Allemands passent à une politique budgétaire extrêmement restrictive. Ils veulent retrouver l'équilibre budgétaire en 2 ans. L'année prochaine, ils auront un déficit public à peine supérieur à 1 point de PIB. Si on ne veut pas être montré du doigt et puis peut-être provoquer une réaction des marchés financiers, il va falloir réduire ce déficit public de 4,5% du PIB à l'horizon 2027. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, le gouvernement ne veut pas, pour l'instant, augmenter les grands impôts. Il a mis un veto à l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales, des impôts de production, etc. Donc, il y a des petits impôts qu'on peut augmenter. Ben, il y a d'abord les impôts locaux, hein, qui augmentent. Et puis, certains impôts, donc on parle d'une taxe sur les sociétés d'autoroutes, hein, pour le budget de 2024. Enfin, si vous ne touchez pas aux grands impôts, vous ne pouvez pas augmenter beaucoup la pression fiscale, quoi. C'est quelques milliards de revenus et c'est presque invisible. Il manque presque 50 milliards pour ramener le déficit public en 2027 à ce qui avait été prévu. Et voilà. Et donc, il y a trois solutions. Soit on arrivera, par une négociation intelligente, à pousser sur des budgets européens une partie croissante des budgets des États. Donc, c'est-à-dire que l'Europe prendra à sa charge des budgets de transition énergétique, de recherche, de relocalisation. Et donc, ça ne sera plus localisé dans les budgets des États. Donc, ça impose un changement du pacte de stabilité. C'est peu probable parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont très hostiles à ça. Les Allemands jouent un jeu bizarre parce qu'ils ont une grosse marge de manœuvre budgétaire et ils savent que les autres n'en ont pas en Europe et ça leur donne un avantage comparatif pour subventionner leur industrie et subventionner le retour de l'industrie en Allemagne qu'ils n'ont pas intérêt à manger. Et donc, ils n'ont pas intérêt à accepter un assouplissement du pacte de stabilité. La deuxième solution, c'est qu'on fait 4,5 points de PIB de déficit public en 2027. J'ai dit précédemment que ça serait extraordinairement difficile à la fois par rapport aux règles européennes qui sont revenues assez strictes et par rapport aux marchés financiers. Et la troisième solution, c'est qu'on finit par augmenter les grands impôts. Et donc, il faut augmenter de presque 2 points de PIB la pression fiscale sur les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les impôts sur le patrimoine, etc., pour revenir dans les clous de ce qui était annoncé. Honnêtement, je finis par ça, la prévision de croissance à 1,6 point de PIB, elle n'est pas crédible. surtout compte tenu de ce qu'on a vu sur la productivité du travail depuis plusieurs années. Donc ce recul de la productivité, ça reflète quelque chose de profond sur les attitudes au travail des jeunes, sur le fait que la population active vieillit, sur l'effet du télétravail sur la productivité, et qu'on a pas de raison de penser que cette dégradation profonde de la productivité qu'on voit dans tous les pays européens, mais beaucoup plus violemment en France qu'ailleurs, mais en Allemagne, il n'y a plus de gain de productivité non plus, enfin, donc ce sera retourné par magie d'ici quelques années. Et donc, je pense qu'il y a une surévaluation de la croissance potentielle très forte dans les prévisions du gouvernement et même de la Commission européenne, qui sont plus basses que celles du gouvernement français.
Vous n'avez pas parlé de baisse des dépenses publiques fortes?
Oui, mais alors si on regarde les dépenses publiques, on va devoir dépenser plus pour les dépenses militaires, plus pour la santé, plus pour l'éducation, plus pour la justice, plus pour l'environnement, pour la transition énergétique. Et donc, où est-ce qu'on peut faire des économies? Le champ des économies est très petit, quoi. Je veux dire. Alors, les Allemands ont sacrifié certains budgets pour réduire leur déficit public. Il y a des baisses considérables des budgets de la culture, des budgets de la santé en Allemagne, pour mettre tout le paquet sur la réindustrialisation. Mais on ne va pas faire ça en France. Enfin, je veux dire. Et puis chaque jour amène des dépenses supplémentaires. Par exemple, le plan de hausse des salaires des hospitaliers qui font des gardes de nuit, ça coûte 1,5 milliard. Enfin, donc je crois que c'est très difficile à l'horizon de 4 ans d'avoir une action réelle sur les dépenses publiques.
Les réformes des retraites ne produisent pas d'économie l'échelle de ce que l'on peut attendre.
À l'horizon de 4 ans, ça fait même un supplément de dépenses. Ça fait des économies plus tard, ça fait des économies de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros en 2030, mais à l'échelle de 3 ans, c'est des dépenses supplémentaires que ça occasionne. Donc, et puis à nouveau, il faut trouver presque 50 milliards d'euros pour réduire le déficit de presque 2 points de PIB. La réforme de retraite, c'est 8 ou 9 milliards de réduction des dépenses de retraite à l'horizon 2030. Et plutôt concentré sur la fin, donc ça marche pas.
Alors Bruno Le Maire espère beaucoup d'augmenter le taux d'emploi avec la réforme des retraites, mais ça, on peut en voir la couleur à quelle échéance?
Le taux d'emploi, effectivement, le taux d'emploi il est de un peu plus de 40% pour les 60-64 ans en France, il est de 70% dans beaucoup de pays, donc il y a une marge. Le problème, c'est on rentre dans une période de ralentissement économique, et puis il y a des problèmes de formation, et puis il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui sont déjà sorties du marché du travail, qui sont. D'ailleurs, le gouvernement avait chiffré l'effet de la réforme des retraites à 8 points de hausse du taux d'emploi des 60-64 ans. Et donc, les 60-64 ans représentant 7% de la population active, ça fait 0,6 de hausse du taux d'emploi global. Donc, c'est pas. Et puis, étalé sur 10 ans, quoi. Enfin, sur 8 ans. Enfin, donc, c'est petit, quoi. C'est-à-dire, cet effet existe, mais il est très petit, quoi. À nouveau, il y a un problème, c'est que la croissance potentielle de la France est inférieure à 1%, quoi. Et donc. On n'a pas ajusté le rythme des dépenses publiques à une croissance potentielle inférieure à 1%, et même on a plein de dépenses publiques supplémentaires à faire. Et puis la transition énergétique, le respect de la biodiversité, la gestion de l'eau, tout ça, ça fait à peu près 4 points de PIB de dépenses, dont à peu près la moitié à la charge de l'État. Donc ça, on n'a que des additions à faire, finalement, quand on regarde le besoin d'argent public.
Mais alors, si on en fait, finalement, ce que vous dites, c'est que la seule solution, la dernière solution, ça va être d'augmenter les grands impôts. Finalement, la seule solution pratique qu'on voit, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, si on part sur cette idée, même si, évidemment, pour l'instant, le gouvernement a toujours mis le veto, qu'est-ce qui serait le moins dommageable? D'abord, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Et deux, qu'est-ce qui serait le moins dommageable comme grand impôt à augmenter?
À nouveau, il faut trouver presque 50 milliards d'euros par an. hein, et si mes calculs sont corrects, à l'échéance de 2027. Hein. Et donc, c'est énorme, quoi, je veux dire. C'est, et donc, vous ne pouvez pas centrer ça sur un impôt. Il faut augmenter à peu près tous les impôts, quoi. Je veux dire, les impôts sur le revenu des ménages, les impôts sur les entreprises. Il faut restaurer, recréer un impôt, un ISF. Il faut toucher à tout, quoi.
Mais ça, ce serait l'inverse de ce que le gouvernement fait depuis 6 ans. Donc, ce serait
prendre
un chemin totalement opposé.
Oui, mais il ne faut pas remonter les cotisations sociales et il ne faut pas remonter les impôts de production des entreprises. Mais à nouveau, il y a une impossibilité arithmétique, quoi. Je veux dire, on ne peut pas avoir 4,5% du PIB de déficit public en 2027. Ou alors, on utiliserait une stratégie monétaire très différente. C'est, on laisserait l'inflation de la zone euro à 4 ou 5%. On ferait baisser les taux d'intérêt à long terme par la technique connue du quantitative easing et on financerait ces déficits publics par la taxe inflationniste qui serait prélevée sur les épargnants de tout poil parce que les taux d'intérêt seraient beaucoup inférieurs à l'inflation. Mais ce n'est pas du tout la stratégie de la BCE. La stratégie de la BCE, c'est de revenir à une inflation de 2% et donc de revenir à une situation... où il n'y a pas d'économie liée à l'inflation. Voilà. Quand on regarde ce qu'on a fait, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale en France, aux États-Unis, on a eu des déficits publics énormes qui ont coïncidé avec un effondrement du taux d'endettement public parce qu'il y avait 15% d'inflation et les taux d'intérêt étaient à 3%. Donc on a ruiné les épargnants. Et donc, on n'envisage pas de faire ça, quoi. C'est de l'économie de guerre, donc on n'envisage pas de passer à l'économie de guerre. Mais dans une économie pas de guerre, la seule solution, quand vous n'avez pas de dépenses publiques vraiment à baisser pour rééquilibrer un budget, c'est d'augmenter les impôts, quoi.
Parce que l'argent, il est effectivement chez les épargnants. Si on regarde les chiffres, là où le taux d'épargne est élevé.
On a quand même un déficit de la balance courante. Ça veut dire que l'épargne ne couvre pas nos investissements. C'est un point aggravant. Mais à nouveau, j'aime pas l'idée de monter les impôts. Comment faire si la seule solution raisonnable, ce serait de faire une réforme du pacte de stabilité, de passer 2 points de dépenses publiques de tous les pays, qui sont des dépenses de transition énergétique, de réindustrialisation, de développement des semi-conducteurs, de les passer sur le budget de la Commission européenne et de ne plus les compter dans les déficits de Maastricht de PDPI. Ça serait la Commission européenne, et c'est un émetteur triple A qui a un potentiel d'endettement supplémentaire considérable. Donc, ça serait la seule solution raisonnable pour éviter un problème. Simplement, cette solution est raisonnable. Les Allemands, les Hollandais, les Autrichiens, les Finlandais, etc., n'en veulent pas, quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'on est historiquement dans une période totalement différente de celle des années 90, où des États comme le Canada et la Suède avaient été contraints de réellement réduire leurs dépenses publiques, situation qu'on n'évoque plus du tout 20 ans plus tard, 30 ans plus tard.
Si on regarde les dépenses publiques, les dépenses publiques, on a besoin vraiment de plus d'argent pour le militaire, pour l'éducation, pour la santé, etc. Le problème, peut-être, c'est faire une réforme de l'efficacité des systèmes publics. Les Suédois, par exemple, ont fait une réforme qui est du système des agences, hein, où ils ont décentralisé les fonctions de l'État sur des agences qui ont des salariés privés, qui sont évalués comme dans le secteur privé. Il n'y a pratiquement plus de fonctionnaires en Suède. Et donc, c'est une réforme profonde de l'État. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui ? L'État transformant ses fonctionnaires en salariés du privé avec des critères d'évaluation, des bonus, etc., et la possibilité d'être viré si les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs. Les Suédois l'ont fait, on ne voit pas ça en France. Effectivement, si on regarde les dépenses salariales de l'État français, si on était aussi efficace en termes de dépenses de salaire que les autres pays, il y aurait probablement 2 points de PIB à trouver, et donc on y arriverait. Simplement, ça imposerait une réforme du type de ce qu'a fait le ministère des Finances. le ministère des Finances a considérablement réduit son emploi en numérisant complètement toutes les opérations du ministère des Finances. Ça marche bien et ça a provoqué des économies considérables. Vous voyez ça dans l'éducation, dans la santé, c'est très compliqué. Et probablement, il y aurait une résistance incroyable. Effectivement, dans l'idéal, on voudrait une réforme de l'État à la suédoise. Simplement,
on peut pas la faire en 4 ans.
Mais on ne peut pas la...
Personne n'en parle, surtout.
Personne n'en parle, et puis on n'a pas du tout d'allègement du nombre de fonctionnaires. Donc c'est très difficile d'imaginer que c'est une piste réaliste. C'est une piste intéressante, mais pas réaliste probablement.
Même quand on le fait, ça ne porte pas forcément ses fruits. Je pense à la fusion des régions.
La fusion des régions, c'est le contre-exemple même, puisque vous aviez une contrainte de garder les emplois, et donc la fusion des régions a simplement gardé l'emploi. Donc il n'y a aucune économie d'échelle sur la fusion des régions. On a créé des emplois pour la gestion de la fusion. Donc.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Patrick Artus d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de Challenge.